je prends un micro qui fonctionne sans problème. Donc je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière journée de fête autour d'Albert Camus, que nous avons donc qui a jalonné notre année 2013 à la Cité du Livre, et d'autant plus que cette journée finalement elle se formalise autour d'intervenants de qualité et avec des questionnements, je pense, qui sont intéressants. Donc j'espère que vous allez passer de bons moments en notre compagnie. Et ce matin, c'est Agnès Piquel qui va donc ouvrir cette journée avec un très beau sujet, puisque Agnès Piquel a dirigé le colloque de Cerisy de cette année, dont la thématique était Camus artiste. Elle a également fait partie, vous l'aurez remarqué, de notre exposition. Elle fait partie de l'équipe scientifique de l'exposition. Et elle a également dirigé les Cahiers de Lerne, donc une grande activité. Et nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui, puisque Agnès Piquel a fait beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de choses autour de Camus, beaucoup de choses dans cette maison. Elle a participé à des débats, mais elle n'a jamais fait de conférence. C'est une première et nous sommes ravis de lui offrir cette opportunité aujourd'hui. Merci beaucoup, Agnès, et je te laisse la parole.
Bon. Merci, Marcel. Merci. Pardon. Merci à toute l'équipe de la Méjane. Effectivement, depuis maintenant un peu plus d'un an, je suis beaucoup venue ici pour préparer l'expo et j'ai admiré la manière dont fonctionnait cette bibliothèque Méjane et cette Cité du Livre. Et je voudrais dire quand même, puisque cette belle aventure va se terminer, que l'expo, ça a été une très très belle aventure, et je dirais une aventure bien sûr scientifique, une aventure camusienne, mais aussi une aventure humaine. Ça a été une belle histoire d'amitié. Et voilà, je tenais à le dire en public parce que c'est sans doute ce qui me restera. Voilà. Alors Camus l'artiste, je le cite. « Nous tous, artistes incertains de l'être, mais sûrs de ne pas être autre chose. » Voilà, les choses sont dites, Camus se définit comme artiste. Et chaque fois qu'il parle de lui, il parle beaucoup plus souvent en termes d'artiste qu'en termes d'écrivain. Je voudrais donc m'arrêter d'abord un peu à ce terme de artiste. Pourquoi est-ce celui qu'il choisit? Alors, celui qu'il écarte, le terme d'écrivain, il me semble qu'il a une bonne raison de le faire, c'est l'aura un peu supérieure que la tradition romantique a donnée à cette figure de l'écrivain, le mage, le prophète. Camus ne veut pas du tout être cela. Or, cette image est encore extrêmement prégnante. Quand lui-même décide de devenir artiste. Et donc, il me semble que le terme d'artiste, tout en le mettant en lien avec d'autres créateurs que les écrivains, par exemple les peintres et tous ces artistes qu'il rencontre dès son jeune âge, sa jeunesse, il me semble qu'il met à l'écart cette idée d'un être à part, qui est quand même véhiculé par le romantisme. Il me semble qu'il y a une autre raison, c'est que artiste et artisan, c'est la même racine. Camus est quelqu'un qui aime les mots, hein, qui aime l'histoire des mots. Et des artisans, il en a vu dans son enfance, son oncle tonnelier, mais beaucoup d'autres. Ce sont des gens du travail manuel pour lesquels il a un respect immense. Et artiste, en rappelant artisan, défait cette dichotomie souvent méprisante entre un travail intellectuel et à plus forte raison un travail créatif et le travail manuel. Être artiste, pour lui, c'est un métier. Mais il a un autre métier qui lui, lecteur chez Gallimard, qui lui permet d'assurer son indépendance financière. Il ne s'agit pas de se dire « il faut que je gagne de l'argent avec mes livres ». Et c'est plus encore, comme tous les métiers, quelque chose que l'on apprend. Camus est quelqu'un qui a toujours été en apprentissage. On le voit dans les textes de sa jeunesse, on le voit essayer ce que c'est. Hein, ses tout premiers textes qu'il n'a absolument jamais publiés, qui étaient restés sous forme de brouillon. Et on le voit d'une part tenter diverses formes d'écriture, et puis on le voit aussi regarder comment c'est chez les autres. On a des notes de lecture, il a 19 ans, et on le voit bien essayer de sonder ce mystère. Mais pourquoi ça marche, par exemple, l'écriture de Stendhal? Et c'est extrêmement émouvant. Une autre Un autre exemple, quand il écrit La Peste, il a du mal, il a beaucoup de mal à écrire La Peste. Eh bien, il y a cette lettre extraordinaire où à son ami Louis Guillou, il écrit ceci, « J'arrive pas à écrire La Peste. Alors j'ai relu ton livre, Le Sang Noir, très grand roman, et il dit, texto, « Je me suis senti tout petit garçon. Toi, tu sais faire vivre des personnages. » Il a déjà derrière lui L'Étranger, Le Mythe de Sisyphe, et il, voilà, il dit, ben non, j'ai essayé d'aller apprendre chez toi comment tu faisais. Je trouve ça extraordinaire. Et L'Exil et le Royaume, qui sont des choses admirables, il dit à certains amis, bon, je ne me sentais pas à reprendre un écrit de longue haleine comme La Peste, il a le projet du premier homme, alors j'ai fait des formes courtes. Un peu comme s'il avait besoin de se refaire la main, de refaire des gammes. Excusez du peu, ça donne L'Exil et le Royaume et La Chute. Hein. Donc, un métier que l'on apprend, que l'on ne cesse de renouveler, j'y reviendrai, et que l'on ne cesse de mettre sous le signe des grands prédécesseurs. Camus est quelqu'un qui a toujours eu le sens de l'admiration. Donc, pour lui... dire qu'il admire un écrivain et que cet écrivain est pour lui essentiel, ça n'est absolument pas un problème. Encore une fois, il est du même métier. Et puis, sans que je m'y attarde, nous avons découvert à Cerisy tous ensemble 7 jours à vivre ensemble à une cinquantaine de gens. Ça produit des idées. Nous nous sommes aperçus à quel point Camus mettait souvent des figurations de l'artiste dans son œuvre. Il y a plein d'artistes dans son œuvre. Scipion dans Caligula, Jonas, bien sûr, dans L'Exil et le Royaume, Joseph Grand dans La Peste. Vous allez me dire, c'est quand même un raté celui-là, il n'a pas dépassé la première phrase. C'est quand même une image de l'artiste qui veut arriver à la phrase parfaite. Et le narrateur n'est pas du tout condescendant ou méprisant par rapport à Grand. Il dit même que c'est sans doute le héros de ce livre. Kaliaïev, le héros des justes, écrit des vers. Il y en aurait encore beaucoup d'autres. Au-delà de ce terme d'artiste qu'il se donne, Camus atteste très souvent, par des phrases capitales, à quel point cet être artiste fait partie de sa nature profonde. Une des premières phrases du discours de Stockholm, « Je ne pourrai plus vivre sans mon art ». Et il dit ça à la face du monde entier. Mais aussi l'affirmation que on ne distingue pas en lui entre l'homme et l'artiste. L'homme et l'artiste, dit-il, marchent d'un même pas. Ou encore, parce que je trouve que toutes ces formulations dessinent quelque chose comme l'image de ce qu'il voudrait être. Pourquoi suis-je un artiste et non un philosophe? C'est que je pense selon les mots et non selon les idées. Mais alors, penser selon les mots n'empêche pas la démarche philosophique. Mais en tant qu'artiste, dans le cycle de l'absurde et le cycle de la révolte, Camus retourne vers l'artiste, donc vers lui, la question de l'absurde et la question de la révolte. Et l'on voit bien dans le mythe de Sisyphe et dans l'homme révolté que ces questions sont posées à l'artiste, puisque dans le mythe de Sisyphe, on a une section philosophie et roman dans un chapitre qui s'appelle « La création absurde », qui ne veut pas dire que l'œuvre d'art en soi est absurde, mais qui veut dire comment être créateur alors qu'on a entériné l'absurde. Et dans l'homme révolté, on a une section aussi, roman et révolte, dans le chapitre révolte et art. Et vous voyez que le mot art réapparaît là. Autrement dit, l'artiste, même s'il pense selon les mots, même s'il est avant tout artiste, se pose à lui-même les questions philosophiques qui sous-tendent ses premières productions. Et c'est intéressant de voir la réponse qu'il donne à la question de « mais qu'est-ce que c'est qu'un artiste révolté ?» Il dit « l'artiste révolté dit à la fois oui et non au monde ». Et l'on retrouve ce que le jeune Camus, avant le cycle de la révolte, disait déjà dans « L'envers et l'endroit », entre oui et non. Eh bien, l'artiste, et vous voyez que cette unité profonde, l'artiste est aussi entre ou celui qui dit oui et non au monde. Cette unité profonde en Camus, de l'homme et de l'artiste, il s'en explique de plus en plus au fur et à mesure qu'il avance dans cette expérience de la création. Et il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est une réponse qu'il donne en mars 1959 à des spectateurs qui sont venus voir Les Possédés, hein, l'adaptation qu'il a faite du roman de Dostoïevski. Et il leur dit ceci. Alors c'est du style oral, puisque c'est la sténographie de ce qu'il a dit. « Il m'a toujours semblé qu'un artiste essayait de s'approcher lentement, d'une manière un peu aveugle, un peu maladroite, d'une sorte de centre un peu vibrant, tremblant, qu'il a à l'intérieur de lui, et qu'à partir du moment où ce centre existe, selon lui, à partir du moment où vraiment il consacre sa vie, et le plus loyalement qu'il peut, à la marche vers ce centre, les chemins qu'il prend sont indifférents. » Et la suite montre que quand il dit les chemins qu'il prend, c'est en termes de genre. Peu importe si l'on va vers le centre, que ce qui sorte, ce soit un roman, une pièce de théâtre ou un essai philosophique. Et puis, dans, je crois, le texte fondamental où il se définit en tant qu'artiste et en tant qu'homme dans cette unité profonde, je veux parler de la préface de 1958 à L'envers et l'endroit. L'envers et l'endroit est un texte de jeunesse, 1937, mais des amis lui disent on ne peut plus le trouver, ça avait été édité chez Charlot à Alger, et Camus accepte finalement que ce soit réédité, et il en profite pour le faire précéder ce texte de jeunesse d'une préface qui est capitale. Encore une fois, c'est un homme, donc vous voyez, de 43 ans, qui a derrière lui une œuvre, mais qui dit en même temps que son œuvre n'est pas commencée, donc il y a devant lui plein de projets, et qui fait le point. Il y a son enfance, il y a tout, en tant qu'homme et artiste. Et j'ai toujours envie de dire, si l'on veut savoir comment Camus se percevait, c'est ce texte-là qu'il faut lire. Il est d'une densité extraordinaire et d'une beauté, du point de vue du style, les trois dernières pages sont absolument magnifiques. Et il dit ceci, entre autres, pour revenir à cette idée d'une unité profonde, « Pour être édifié, l'œuvre d'art doit se servir d'abord de ses forces obscures de l'âme. » Vous voyez, ça ne veut pas dire que la création est complètement autocentrée, hein, mais que la dynamique, l'énergie vient de très très profond, les forces obscures de l'âme. Obscur est un adjectif que Camus aime beaucoup. On pense à le dernier chapitre que nous ayons du premier homme, où peut-être un titre aurait été obscur à soi-même. Eh bien, c'est dans cette obscurité profonde que l'énergie de l'œuvre d'art naît, même si elle est consacrée à toute autre chose que un processus d'introspection. Alors, ceci étant mis en place comme une sorte d'introduction, je voudrais vous inviter à regarder un peu l'artiste au travail. Et là, il y a un élément très très important, ce sont les carnets. Les carnets de Camus, dont je salue la publication en folio, ça y est, tout le monde peut les lire maintenant, sans se ruiner. Ce n'est pas un journal intime, c'est le journal d'une pensée, le journal, le laboratoire d'une œuvre. Et je pense que pour voir comment Camus se représente des problèmes comme celui de la création, c'est tout à fait étonnant. Et on y voit aussi un art de la formule extraordinaire. Et je pense que pour voir l'artiste au travail, je signale que Camus les a écrits de 1935 à sa mort, mais que lui-même en a souhaité la publication. Quelquefois on dit, ah oui, mais pourquoi l'on publie des choses comme cela, c'était pas destiné à cela. Si, Camus, à partir du début des années 50, a préparé une publication qu'il n'a pas eu le temps de mener à bien, la mort l'en a empêché, et donc les carnets ont été publiés à titre posthume en 62-64, et pour le tome 3, 1989, pour des tas de raisons, ça a été beaucoup plus tardif. Alors on y voit d'abord, dans ces carnets, donc pour l'artiste au travail, qu'il a un constant souci de son œuvre. Très tôt, et très tôt vraiment, il parle d'une œuvre à faire. Il dit « mon œuvre ». Alors vous allez me dire, c'est extrêmement... c'est de l'orgueil. Non, Il y a à la fois doute et fierté chez Camus à propos de ce qu'il a à écrire, qui est tout à fait étonnant. Donc il parle de mon œuvre, mais en même temps, et tout de suite et toujours, il va s'interroger sur les formes qu'elle va prendre, sur, et surtout sur sa légitimité. Question qu'il posera à nouveau dans le discours de Stockholm en 1957. Toutes ses carnets, mais aussi plus encore peut-être sa correspondance, est traversée par l'obsession du temps à trouver pour écrire. Et par exemple, avec Louis Guillou, c'est toujours « Est-ce que tu as le temps de travailler ? Est-ce que tu as travaillé ?» Et comme Louis Guillou a le même problème, on voit bien que pour eux, il y a une foule de tâches, et bien sûr on y reviendra, de tâches à remplir, mais l'essentiel, c'est l'œuvre. Et donc, il faut essayer de trouver du temps pour cette œuvre. Et bien sûr, ce statut de l'artiste qui manque de temps, il l'a, de façon extraordinaire, humoristique et à la fois très grave, mis en œuvre, dans la nouvelle Jonas ou l'artiste au travail, qui est dans L'exil et le royaume, où l'on voit bien ce Jonas qui est peintre, mais artiste donc aussi, devenu célèbre, eh bien, n'a plus de temps pour travailler. Et c'est un dilemme mortel pour l'artiste. L'artiste Camus n'est jamais satisfait. Il dit la difficulté à écrire, la souffrance même d'écrire, et pendant qu'il écrit Le premier homme, il a cette phrase dans sa correspondance: ce n'est pas que je sois content de ce que je fais, je me dis que c'est impossible, que je n'écris que des conneries, que je bafouille, je pleure après un petit peu de génie, un tout petit peu qui me ferait au moins travailler dans l'allégresse au lieu de cette interminable maladie. Et pour finir, je continue. Et on a aussi des cris de joie, des moments où il dit « ça y est, j'ai touché quelque chose », ne serait-ce que de façon très très éphémère. Mais il y a cette difficulté, et je pense que ce n'est absolument pas réduire le génie de Camus que de dire qu'il y a difficulté et souffrance dans la création. Il n'hésite pas non plus à réorienter son œuvre. Par exemple, en mars 51, il s'interroge dans ses carnets: terminée la première rédaction de L'homme révolté, avec ce livre s'achèvent les deux premiers cycles, 37 ans, et maintenant, la création peut-elle être libre ? Vous voyez, on le voit hésiter, et je suis persuadé que le début des années 50 est un moment de réorientation, de repensée complète de son œuvre, après les deux cycles de l'absurde et de la révolte qu'il avait conçus donc comme des ensembles. Et là, la création peut-elle être libre ? Et je pense qu'il ne faut jamais oublier cela quand on pose la question d'un troisième cycle dans l'œuvre de Camus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dominantes dans ces années 50, mais est-ce qu'il aurait recouru encore à la forme du cycle avec romans, pièces de théâtre, essais philosophiques ? On ne le sait pas, mais vous voyez qu'il est prêt à réorienter son œuvre. Et en même temps, fondamentalement, les années 50 sont des années de doute sur lui-même et profondément. Non seulement sur ce qu'il a écrit, dont par exemple même La Peste, qui a un succès énorme en 47, et il dit « mais moi je vois tous les défauts de ce roman », mais beaucoup plus profondément dans les années 50, est-ce que vraiment je suis un écrivain ? Et c'est extrêmement émouvant, voire poignant, de voir Camus, qui va avoir le prix Nobel de littérature, se dire « mais peut-être que je devrais me consacrer seulement au théâtre. Là, je suis heureux, d'une part, et d'autre part, je fais du bon travail. » Et je voudrais vous lire cette note de ses carnets le 8 août 1957. Et vous allez voir que c'est aussi en confrontation avec un grand romancier. Pour la première fois, après lecture de Crime et Châtiment, doute absolu sur ma vocation. J'examine sérieusement la possibilité de renoncer. En réalité, le créateur aujourd'hui ne peut être qu'un prophète solitaire, habité, mangé par une création démesurée. Suis-je ce créateur ? Je l'ai cru. Exactement, j'ai cru que je pouvais l'être. J'en doute aujourd'hui. Et la tentation est forte de rejeter cet effort incessant qui me rend malheureux dans le bonheur lui-même, cette assaise vide, cet appel qui me raidit vers je ne sais quoi. Je ferai du théâtre, j'écrirai au hasard des travaux dramatiques, sans me soucier, je serai libre peut-être. Qu'ai-je à faire d'un art estimable ou honnête ? Et suis-je capable de ce dont je rêve ? Si j'en suis pas capable, à quoi bon rêver ? Me libérer de cela aussi et consentir à rien. D'autres l'ont fait qui étaient plus grands que moi. Fin de citation. Je voulais vous lire en entier cette note des carnets. Je la trouve poignante et en même temps d'un courage extraordinaire. Camus se disant, mais après tout, renoncer, ça ne serait pas forcément un déshonneur. Oui, mais dans cette fameuse préface de 58, et vous voyez l'oscillation dont je vous parlais tout à l'heure, il écrivait ceci, et cette fois-là ce n'était pas au conditionnel, c'était au futur. Simplement, le jour où l'équilibre s'établira entre ce que je suis et ce que je dis, ce jour-là peut-être, et j'ose à peine l'écrire, je pourrai bâtir l'œuvre dont je rêve. Alors, l'équilibre, fin de citation, l'équilibre entre ce que je suis et ce que je dis, ce n'est pas le masque ou le mensonge, hein, c'est l'équilibre entre laisser parler les forces profondes et en même temps éviter le pathos, donc se mettre des digues. Et il dit, il faut que je trouve l'équilibre. Alors bien sûr, je pourrais bâtir l'œuvre dont je rêve, mais vous avez vu la date, 58, il a déjà fait pas mal de brouillons pour le premier homme, et à fin d'été 58, il se lance dans cette version que nous avons du premier homme. Autrement dit, vous voyez qu'à la fois il doute et qu'en même temps il lance cette très belle histoire du manuscrit du premier homme. C'est un artiste aussi qui a le constant souci du style. Camus est quelqu'un qui admire les grands stylistes de la littérature française, en particulier les moralistes du XVIIe siècle. Il admire Madame de Lafayette, il admire Chamfort, qui est un moraliste du XVIIIe siècle. Mais il admire aussi des romanciers comme Stendhal, c'est-à-dire une acuité du style, une précision du style, le refus de la facilité. Camus refuse la facilité, et dans l'expression, et dans ce qui est exprimé. La facilité, ce serait le laisser-aller, ce pathos qu'il refuse. Il a cette castillanerie dont il parle souvent, et il a aussi beaucoup de pudeur. Mais je voudrais souligner aussi à quel point il refuse absolument le laisser-aller du style. Et c'était une des raisons pour lesquelles un certain nombre de ses amis avaient déconseillé à Francine Camus de publier « Le premier homme ». Parce que c'était, disait-il, un manuscrit qu'il n'avait pas revu, et il était tellement perfectionniste du point de vue du style qu'il n'aurait pas aimé qu'on le fasse. Bon, je pense que c'est quand même très très bien que nous ayons le premier homme. Je voudrais aussi signaler la multiplicité des styles de Camus. Trop souvent, on le réduit à l'écriture blanche des premières phrases de L'étranger, en oubliant que déjà dans L'étranger, il y a d'autres styles, l'amplitude de la phrase, par exemple au moment du meurtre ou dans la dernière page, la phrase devient lyrique au sens propre du mot, c'est-à-dire musicale, et on a un afflux d'images, on a des rythmes, c'est un autre style déjà. Camus est tout à fait coutumier de ce style qu'il y avait dans Nos, et puis on a tous les styles différents, par exemple dans L'exil et le royaume, ou les six nouvelles, chacune a un style différent, un point de vue différent de la narration. Camus est quelqu'un qui a des styles multiples, et le premier homme nous le montrait encore. Et bien sûr, Camus sait très précisément la différence entre l'écriture narrative et l'écriture théâtrale. Et là, des hommes de théâtre qui montent Camus disent bien qu'on sent un homme de plateau, c'est-à-dire quelqu'un qui était metteur en scène, qui avait été acteur, et qui savait ce qu'était une écriture proprement théâtrale, avec en particulier l'énergie qu'il faut dans le début des répliques pour que la réplique soit portée jusqu'au bout. Et Camus, qui a fait donc des adaptations de romans en pièces de théâtre, a complètement pratiqué cette transposition qui n'est pas simplement une transposition de l'histoire, mais qui est aussi une transposition du style, parce qu'il sait très bien que l'écriture théâtrale est autre, hein, et pas simplement par l'oralité. Donc je pense que c'est quelqu'un pour qui le style est un constant souci. Et il dit, j'aime beaucoup cette phrase, à Robert Mallet qui l'interrogeait sur son style, il répond ceci, « Je n'ai qu'une certitude, mon besoin d'être ému pour bien écrire. » Mais entendons-nous bien, ému, ce n'est pas simplement avoir des sentiments et vouloir les déverser. Hein, encore une fois, il y a toujours cette retenue chez Camus. Ému, on a encore l'étymologie, c'est-à-dire mis en mouvement, donc il doit y avoir cette sorte de mise en mouvement intérieure, hein, portée par les énergies intérieures, qu'il faut arriver à rassembler, donc pour lesquelles il faut une disponibilité, et c'est cela qui permet de bien écrire. Allons plus loin encore. Tout à l'heure, en parlant de Jonas ou l'artiste au travail, ceux qui connaissent la nouvelle savent très bien que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux dernières lignes de la nouvelle, où Jonas, après une grosse crise, j'allais dire existentielle, a une sorte d'évanouissement. Il tombe de la soupente où il s'était retiré. Et dans la soupente, on trouve une grande toile, toute blanche. Et au milieu, un mot, et je cite, « dont on ne savait s'il fallait lire solitaire ou solidaire ». Et c'est sur cette tension essentielle que je voudrais maintenant m'attarder. Elle est absolument capitale dans la réflexion sur Camus, l'artiste. D'abord, et il le dit, il y a une solitude positive qui est liée avec le sens de la beauté. L'artiste a besoin de solitude pour créer. C'est une solitude qu'il recherche, qu'il aime. Et son émerveillement quand il s'installe à Lourmarin, au milieu de 58, c'est entre autres parce que là, il trouve la solitude. Et les projets qu'il faisait au moment où il est mort, ça aurait été 6 mois à Lourmarin pour pouvoir écrire dans cette solitude et cette beauté, et puis 6 mois à Paris pour le théâtre. Et à peu près en même temps que ces citations un peu désespérées que je vous ai lues tout à l'heure, je vous lirai seulement ceci, mai 59, « Travail repris » et avancer dans première partie, premier homme, reconnaissance à ce pays, à sa solitude, à sa beauté. Il y a une solitude aimée, une solitude recherchée. Et d'ailleurs, le problème, c'est bien, est-ce que du coup l'artiste en devient égoïste ? C'est une solitude nécessaire pour laisser monter le champ intérieur, pour goûter la beauté de la nature, mais aussi pour méditer sur cette beauté. Dans ce texte extraordinaire qui s'appelle « Retour à Tipaza », qui a été repris dans le recueil « L'été », un des grands mouvements du texte aboutit « Je comprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible, mais il faut être dans la beauté de Tipaza et s'arrêter seul dans la beauté de Tipaza pour pouvoir prendre conscience de cet été invincible ». Et si l'on compare « Retour à Tipaza » avec « Nos à Tipaza », donc de 39, il y a souvent le « nous » dans « Nos à Tipaza ». Je ne parle pas du « nous », les êtres humains, de la méditation philosophique, mais le « nous » qui indique qu'éventuellement on va à Tipaza avec un certain nombre d'amis. Dans « Retour à Tipaza », il est seul. Et il évoque plusieurs « retours à Tipaza ». Il est seul face à cette beauté de Tipaza qu'il retrouve après la nuit de la guerre. Mais il faut cette solitude dans la beauté de Tipaza, encore une fois, pour savoir tout ce que l'on porte en soi, et en particulier cet été invincible qui est promesse de toutes les fécondités futures. Donc, il faut la solitude pour la beauté, et il ne faut jamais oublier cette phrase, même s'il l'a écrite assez jeune, en 1941, dans ses carnets, « Beauté, mon pire souci avec la liberté ». Alors, vous comprenez le pire souci, hein, mais vous voyez que beauté, liberté, ce sont des soucis, mais des soucis lancinants, parce que la beauté toujours désiré est inaccessible, et la solitude aussi. Parce que cette solitude nécessaire, essentielle, vitale, elle est en même temps impossible, on le voit avec Jonas. Mais cette impossibilité est à la fois éthique et esthétique, cette impossibilité de la solitude. L'artiste, et c'est de l'impossibilité éthique que je parle en premier, l'artiste ne peut pas se couper ni de ses proches, ni de l'ensemble des autres hommes. Il est embarqué comme eux. Et j'aime beaucoup cette phrase du discours de Stockholm où il dit que l'artiste est embarqué comme les autres hommes dans la galère de son temps. Eh bien voilà, il faut ramer. Et je reviendrai sur comment on peut ramer quand on est artiste. Mais vous voyez qu'il refuse l'image de s'engager. S'engager, c'est moi, regardez comme je suis bien, je vais vers. Non, non, Camus, on est embarqué. Et étant embarqué, eh bien, on constate quotidiennement que la solitude, encore une fois essentielle, est pourtant impossible. Mais cette impossibilité est aussi une impossibilité esthétique. L'art meurt s'il est détaché du réel. Et ça, Camus le dit autant dans le discours de Stockholm, peut-être plus encore dans la conférence essentielle qu'il prononce à Uppsala, 3 jours après la remise du prix Nobel, et qui est une conférence à laquelle il avait réfléchi bien avant de savoir qu'il allait avoir le prix Nobel, et qui s'appelle « L'artiste et son temps », où il dit bien que l'art doit être en contact avec le réel, mais attention, il ne doit pas se soumettre au réel. Camus refuse l'art réaliste. Il porte sur le réel le regard de l'artiste, qui n'est pas un regard enjoliveur, mais qui est un regard qui tient compte de l'ensemble, qui ne choisit pas dans le réel, et qui prend l'envers et l'endroit, on revient toujours à cela, sans les séparer comme l'envers et l'endroit d'une feuille. Et donc, le point de vue esthétique de prendre le réel dans sa totalité et de porter sur lui ce regard de l'artiste, Camus parle souvent de correction du réel. Encore une fois, ça ne veut pas dire enjolivement. Ça veut dire qu'on va dégager des grandes lignes. Par exemple, dans la pièce de théâtre, chaque personnage va au bout de son destin, alors que nous, on patauge dans quelque chose qui a des allures de tout sauf de destin. C'est ça qu'il appelle correction du réel. Et il y a donc cette exigence esthétique aussi pour l'artiste, de rester lié à ce réel. Donc non, il ne va pas cultiver la solitude, parce que le réel, ce n'est pas seulement celui de la nature, c'est aussi le réel humain de l'humanité dans toutes ses composantes, à plus forte raison, ses composantes souffrantes. Et solitaire, solidaire, vous voyez que j'ai parlé de la solitude, mais il faut parler de la solidarité. Et il faut toujours revenir à cette phrase lumineuse qui est encore dans le texte que je disais tout à l'heure, qui est un de mes préférés, Retour à Tipaza. Il y a la beauté et il y a les humiliés. Quelles que soient les difficultés de l'entreprise, je voudrais n'être infidèle ni à l'une ni aux autres. Il faut parler pour les muets de l'histoire. Alors bien sûr, c'est ce qu'il fera dans Le Premier Homme, et il a pensé à ce titre qu'il avait déjà donné à une nouvelle de l'exil et le royaume, mais à ce titre pour cette tribu des petits blancs d'Algérie, mais au-delà pour tous les anonymes de l'histoire qui font l'histoire, dit-il dans une phrase extraordinaire du Premier Homme, en se défaisant. Il faut parler pour les muets, il faut donner une voix au silence des opprimés. Et il y a un retournement très intéressant dans les discours de Stockholm, c'est la connivence avec les tyrans qui ferait la mauvaise solitude de l'artiste, c'est-à-dire qui le couperait de cette solidarité absolument vitale, j'allais presque dire irrigante pour l'artiste. Alors que la lutte contre les tyrans intègre l'artiste dans une fraternité universelle qui donne sens et légitimité à son art. Dans le même mouvement que l'on donne une voix au silencieux de l'histoire, au muet, il s'agit de témoigner en faveur de l'homme. Il n'y a d'art, dit Camus, que si l'on croit à la valeur de la vie humaine. Il n'y a pas d'art véritable, dit-il, là où il y a nihilisme. Et Je cite, ces phrases sont très connues, mais je pense bon de les redire. À la fin de la peste, dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. L'œuvre d'art pour Camus est dialogue, mise en résonance, écho, vibration. Tout cela est consubstantiel à la création. Et on le voit dans le dialogue d'artiste à artiste qu'il a mené avec René Char, à quel point ils sont d'accord sur ce statut de l'œuvre d'art. Alors bien sûr, on ne peut plus être artiste comme au temps de l'innocence de Tipaza au début, quand on pouvait encore écrire dans Nos, vivre Tipaza, témoigner, et l'œuvre d'art viendra ensuite, il y a là une liberté. Et c'est vrai qu'il y a cette extraordinaire allégresse de Nos à Tipaza, mais cette innocence dans la création, 1939, date qui englobe bien sûr toutes les années autour, vient la rendre impossible. La guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, la résistance et tout ce qu'il y a après fait que cette innocence de la création n'est plus possible. Et dans un texte qu'il a repris ensuite dans l'été, mais qui est écrit en 1939, qui s'intitule « Le Minotaure ou la halte d'Oran », qui a l'air d'être un texte assez banal, sur Oran, les Oranais, avec un Algérois qui n'aime pas les Oranais, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup plus profond que cela. Le penseur réfléchit sur la différence entre les terres de l'innocence, qui sont faites de solitude et de beauté, et les villes de l'ennui. Ah, vous allez me dire, on ne peut pas créer à Oran. Mais c'est beaucoup plus que cela, parce qu'il dit aussi que ce sont les terres du désastre, où l'histoire nous oblige à vivre. Et il faut bien prendre conscience qu'on ne peut plus rester exclusivement sur les terres de l'innocence faites de solitude et de beauté. Et donc, il faut réapprendre à être artiste quand on a été happé par l'histoire. Quand on a été, quand on s'est rendu compte à quel point on était embarqué avec les autres, et tout cela, Camus en a pris conscience dans ces années, 36-41, qu'on est embarqué, et je cite cette phrase à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, du discours de Stockholm, « Nous sommes en pleine mer. L'artiste, comme les autres, doit ramer à son tour, sans mourir, s'il le peut. C'est-à-dire en continuant de vivre et de créer. L'artiste meurt en tant qu'artiste s'il ne crée plus. Donc il doit ramer, mais en restant artiste. Ce qui, en particulier, lui interdit les œuvres engagées. Camus dit, j'aime les hommes engagés, mais pas les œuvres engagées. Pourquoi ? Parce que les œuvres engagées sont des œuvres à thème, à thèse, et l'art y perd sa liberté. Et il faut donc trouver comment créer en étant embarqué, tout en ne se soumettant, je le dis tout à l'heure, ni au réel, ni à une idée ou à un camp. Vous voyez que l'équilibre est extrêmement précaire et toujours en tension, mais Camus vit tout sur le mode de la tension. La fonction de l'artiste est donc de témoigner pour l'homme. Et dès 1948, il le dit dans un texte capital, que j'ai relu pour préparer cette conférence et qui m'a semblé beaucoup plus important que je ne l'avais pensé, qui s'appelle « Le témoin de la liberté » et qu'il reprend dans « Actuel » en 1950. Je cite « Ce n'est pas le combat qui fait de nous des artistes, mais l'art qui nous contraint à être des combattants. Par sa fonction même, l'artiste est le témoin de la liberté. Et c'est une justification qu'il lui arrive de payer cher. Par sa fonction même, il est engagé dans la plus inextricable épaisseur de l'histoire, celle où étouffe la chair même de l'homme. Le monde étant ce qu'il est, nous y sommes engagés quoi que nous en ayons. Et nous sommes par nature les ennemis des idoles abstraites qui triomphent aujourd'hui, qu'elles soient nationales ou partisanes. C'est au nom de la passion de l'homme pour ce qu'il y a d'unique en l'homme que nous refuserons toujours ces entreprises qui se couvrent de ce qu'il y a de plus misérable dans la raison. » Fin de citation. Et le « nous », vous avez bien entendu, c'est le « nous » des artistes. Être artiste, c'est donc témoigner pour l'homme. Témoigner pour l'homme dans l'histoire, comment il est écrasé ou pris dans des tensions insoutenables. Et témoigner pour ce qui, dans l'homme, échappe à l'histoire, l'amour et la beauté. Je conclurai en deux phrases. Camus a passionnément aimé son métier d'artiste. Malgré tout ce que j'ai dit plus haut sur les difficultés, il faut imaginer l'artiste heureux. Je vous remercie. Je cède la place à Mystique, il est là ?
Voilà. Je ne sais pas si Mystique est là, mais comme nous venons parler de l'artiste, eh bien nous avons donné la parole aujourd'hui à un artiste. C'est Mystique qui a fait un très beau morceau de musique de slam ou de rap, je ne sais plus trop bien à vrai dire, sur le premier homme, mais en tout cas c'est un morceau de musique magnifique. Nous l'avions donné en live donc le 20 mai dernier, et nous là il vient de faire un clip en fait en Algérie où il a chanté ce morceau, et donc voilà, en hommage aux artistes, eh bien nous vous proposons ce clip aujourd'hui.
Solitaire non de faire mon métier, où l'on pense à coups de slogans et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Sans liberté, vrai. Sans un certain honneur, je vous prie. Voilà l'idée que je me fais de mon métier.
Manuscrit, costume, mon livre, interdit. D'une certaine manière, c'est comme si c'était trop libre. La volonté par les lumières de ma conscience.
humaine, une sensibilité exceptionnelle, révoltée contre l'ordre des choses, l'homme et l'écrivain face à face, on touche à l'intimité des choses.
Pardon, je vais prendre le micro. Après ce très beau clip et ce beau morceau que nous a offert Mystique aujourd'hui, une nouvelle fois, moi je le réécoute, là je le redécouvre avec le clip, et je trouve qu'il est toujours aussi beau. Et bien, nous allons céder la parole maintenant à Sophie Doudet, et puis après, nous aurons bien sûr un moment de rencontre avec les différents intervenants de cette matinée, à qui vous pourrez poser des questions, bien évidemment. Alors, Sophie.
Moins 5. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Marcel, une fois de plus, de me donner la chance de parler. Tu
voilà.
Présentes ?
Oui, je vais. Voilà. Bonjour alors à Sophie. Merci à Sophie d'avoir accepté de parler aujourd'hui. Sophie qui fait aussi partie de l'équipe scientifique qui a réalisé l'exposition et qui donc va nous faire aujourd'hui une intervention un peu particulière et un peu spéciale. Parce que si nous avons parlé de Camus l'artiste aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est bien sûr parce que la conférence que Agnès Piquel a évoquée tout à l'heure dans sa très belle conférence autour de Camus l'artiste. L'artiste et son temps, eh bien, cette conférence a été donnée par Camus le 14 décembre 1957. Et donc voilà, nous faisons hommage à Camus l'artiste aujourd'hui à travers ce petit rappel. Merci Agnès pour ta conférence. Et puis en même temps, un autre anniversaire. En fait, on m'a souvent demandé, quand les gens se présentent au Centre Camus ou aux archives, pourquoi le Centre Camus Aix-en-Provence. Alors, il n'y a pas de lien direct, me dit-on, entre Camus et la ville d'Aix-en-Provence. Alors effectivement, il n'y a pas de lien direct, et pourtant si, il y en a un. Et nous l'avons découvert il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'est que le 14 décembre 1959, 20 jours avant l'accident qui va emporter Camus, eh bien Camus a donné à Aix-en-Provence sa dernière conférence publique. Cette dernière conférence publique, il la donne à l'Institut pour étudiants étrangers, et il l'a fait devant une représentation de 38 nationalités. Et donc vous voyez tout de suite le lien, bien sûr, avec l'intitulé de l'exposition. Et Camus a été invité donc pour faire cette conférence par François Meilleur, qui était à l'époque le responsable de la section philosophie de la faculté d'Aix-en-Provence, qui enseignait également en sciences politiques et qui enseignait donc à l'Institut pour étrangers. Et c'est donc Sophie qui va avoir le plaisir aujourd'hui, je pense, plus que la charge, parler de ceci, puisque François Meilleur avait demandé aux étudiants de poser à Camus des questions. Et ces questions étaient écrites. Nous en avons donc la trace, et c'est à travers ces questions que Sophie aujourd'hui va vous passer le message. Sophie, je te laisse la parole.
Merci Marcel. Donc, rebonjour à tous. Donc, je ne vais pas reprendre ce que Marcel vient de vous dire. Donc, en fait, on a 3 pages en fait, parues dans la semaine d'Aix. Entre le 7 et le 13 janvier 1961, donc un an après en fait la mort accidentelle de Camus et un peu plus d'un an après la venue de Camus à Aix-en-Provence. Et ces 3 pages en fait sont le résumé en fait par M. Meyer, qui a été donc le témoin et en partie l'organisateur de cette rencontre de Camus avec des étudiants étrangers. Et donc évidemment, ce qui est absolument sûr, c'est les questions. Ce qui est moins sûr, évidemment, c'est les réponses qui sont faites par Camus. Et François Meyer assume parfaitement le fait qu'il reste des souvenirs, que cela risque de s'effilocher et qu'il faut en garder un témoignage. Donc l'article, qui fait 3 pages, est intéressant à la fois parce qu'il est très émouvant. C'est la dernière représentation publique de Camus, c'est pas forcément sa dernière interview puisqu'il avait donné une interview et qu'elle est parue après sa mort, mais effectivement c'est la dernière présence de ce que François Meyer appelle une pensée vivante. Et peut-être que au lieu de dire au revoir à Camus aujourd'hui, même si l'exposition va durer un petit peu plus longtemps, jusqu'au 12 janvier, l'idée c'était précisément de passer le relais et de voir ce que Camus nous transmet. C'était déjà l'objectif de François Meyer en écrivant la relation de cette rencontre, et l'idée est de savoir ce qu'il a transmis à ces jeunes et ce qui nous parvient aujourd'hui. Si les hommes sont embarqués, ils lancent aussi des bateaux, on le sait au moins depuis Rimbaud. Qu'est-ce qu'il y a dans le bateau de l'œuvre de Camus? Et ça va être effectivement l'objectif de ce résumé commentaire de l'article. Donc l'article est intéressant parce qu'il est émouvant et parce que c'est un testament. Un testament écrit par quelqu'un qui n'est pas Camus. Un testament effectivement peut-être sans grille de lecture. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte? Trois points peut-être importants en guise d'introduction. Premièrement, on y trouve un portrait. Un portrait et un autoportrait de Camus parce qu'il se présente. Donc, désolé Agnès, il dit qu'il est écrivain français. Donc, on va reprendre. Il ne se présente pas comme un artiste, mais on va voir évidemment que ça converge, bien entendu. Donc, Camus se présente tout d'abord avant d'avoir ces questions de la part des étudiants. Il dit qui il est. Et donc, on a un portrait de Camus qui se dégage, qui est un homme public et chaleureux. Et je suis très heureuse que cette photo qui est derrière moi ait été choisie parce que c'est Camus tel que je l'imagine ce 14 décembre. Peut-être pas tout à fait, parce que là, la photo est une photo intime, sans doute, alors que Camus a toujours été, malgré tout, on est toujours en représentation, même si on est naturel. Mais ce que les étudiants et François Meyer ont découvert ce jour-là, c'est un homme public chaleureux, attentif aux questions. Il a répondu pendant plus de 3 heures à ces questions. Quelqu'un, finalement, qui se découvre face... On pouvait imaginer qu'il y aurait un fossé, qu'il y aurait une distance. Et en fait, François Meyer dit qu'ils ont été avec Camus, au même titre qu'aujourd'hui, Joël Calmette a fait un documentaire que vous avez sans doute vu, Joël va revenir. Des gens ont vécu avec Camus et vivent encore avec lui. Et c'est ce que les témoins à l'époque ont ressenti. C'est-à-dire que finalement, il y avait véritablement un dialogue, comme l'a rappelé Agnès, et sans doute un partage. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les étudiants font partie de 38 nationalités. Donc, il y avait le monde, non pas au pied de Camus, mais avec Camus. Et évidemment, ça rentre en résonance avec le titre et le projet de cette exposition. Donc, l'idée, effectivement, c'était qu'il y avait aussi une jeune génération. Et donc, ce qui s'est joué tragiquement et de façon très dense ce jour-là, c'est l'idée d'une transmission qui était d'autant plus capitale qu'elle était ultime et qu'elle s'est révélée effectivement définitive quelques jours plus tard. Le deuxième point, c'est que quand on lit l'article de François Meyer, on se rend compte des attentes que le public a à l'égard de Camus. On va rencontrer un écrivain, mais plus que tout, on va rencontrer un homme. Et une fois de plus, se cristallise quelque chose qu'on sait dès qu'on entend des gens qui l'ont rencontré, notamment, par exemple, évidemment, sa fille et puis d'autres témoins, c'est que beaucoup de gens attendaient quelque chose de la rencontre avec Camus. Et le livre d'or de cette exposition, les commentaires que nous avons au sortir de la visite, nous montrent que tout le monde a un Camus en soi, porte un Camus en soi, en découvre d'autres aspects, et que nous sommes exigeants avec Albert Camus, au sens où nous le portons en nous. Et ce que montre Meyer, c'est qu'il y a, Meyer est philosophe, et qu'il y a une forme de maïotique dans le dialogue entre les étudiants et Camus, une maïotique au sens de accouchement, c'est-à-dire que la relation à Camus permet, selon Meyer, de découvrir en soi, finalement, ce que l'œuvre de Camus révèle
de nous. Donc pas une projection narcissique, mais l'idée que finalement il y a des échos, des vibrations entre ce qui relève d'une expérience personnelle, celle de Camus et la nôtre, et évidemment l'universel, et qui fait que cette œuvre est lisible par beaucoup de gens et à travers toute forme de génération. Et donc l'idée, c'est qu'il y a eu des questions qui étaient contingentes, que représente la femme pour les intellectuels, des choses qui ne sont pas, ouh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire, pas forcément contingentes, mais un peu pointues dans l'œuvre de Camus et dans oh là là, je m'enfonce. Donc, effectivement, des questions qui sont peut-être inattendues, évidemment, des questions centrales, et notamment une des seules questions qui n'est pas écrite tout à fait en français, mais qui est magnifique. Quel est votre but en vie? C'est-à-dire, finalement, quelle est votre mission? Quel est votre sens, finalement, d'existence? Et on se rend compte très rapidement que si Camus va parler de son œuvre au départ, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il parle et qu'il propose, sinon, des formes de sagesse qu'il a toujours évidemment refusé et qu'il a profondément déstabilisé, qu'il propose finalement un cheminement dans le monde et que ses paroles, ses comportements, ses convictions importent aux autres comme des formes de modèles ou en tout cas comme des formes de balises, puisque nous sommes embarqués, des repères, des phares pour pouvoir avancer pas tout à fait dans l'obscurité. On y voit donc des hommes et des femmes qui sont fascinés par une œuvre et surtout finalement par celui qui l'incarne. La jeunesse vit avec Camus comme nous vivons, nous tous ce matin et au-delà, avec cette œuvre et avec cet homme. Enfin, dernier point, c'est l'idée que cet article révèle des failles, je dirais un hiatus, un fossé, une fracture qui est sans doute le propre de toute forme d'œuvre laissée et par quelqu'un qui a disparu, mais qui aussi concerne, je dirais, la trajectoire des intellectuels au XXIe siècle, à qui on a demandé d'être sur tous les fronts, le front de l'art, le front du lyrisme, mais aussi évidemment le front de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se dégage de cet article? Une question qui est celle, finalement, de la relation entre l'écrivain et ses œuvres. Est-ce que Camus est son œuvre? Est-ce qu'il est des morceaux de son œuvre? Donc ça, c'est la première question, et Camus, on va voir, il répond de façon assez radicale. Le deuxième point, c'est que ces hommes et ces femmes ont découvert ce jour-là, finalement, l'opposition entre un discours sur Camus, et nous en avons tous été les témoins en fabriquant et en visitant cette exposition une fois de plus, bien après sa mort, c'est qu'il y a un discours sur Camus, des images plaquées sur cet homme, des polémiques qui datent d'il y a longtemps, et dont nous ne sommes toujours pas sortis aujourd'hui et qui existaient évidemment de façon encore plus cruciale en 1959, et qui fait qu'il y a eu un discours sur Camus qui ne correspondait pas à la personne Camus que des gens rencontraient. Et donc il y a ce hiatus qui est finalement la différence entre Albert et Camus, c'est-à-dire finalement un homme, sinon intime, du moins présent, vivant. Meyer parle de partage, de vis-à-vis fraternel ce jour-là, et finalement ce qui est dit de lui à travers la critique, à travers les polémiques, les hiatus idéologiques de l'époque. Le dernier point, et non des moindres, parce qu'il nous concerne tous, Agnès et moi ce matin en particulier, et vous tous parce que vous êtes des lecteurs et que donc vous interprétez, c'est que c'est un discours sur Albert Camus, déjà pas le premier, mais je dirais il s'inscrit dans la longue suite des textes sur Camus. Et donc ce texte, cet article nous propose aussi, nous met face à la question de l'interprétation. C'est-à-dire que Meyer va projeter lui aussi des choses sur les phrases de Camus, sur ses expressions, et il va commencer ce qui n'est pas une trahison, mais ce qui est une traduction, c'est-à-dire ce que nous faisons de cette œuvre. L'héritage et la transmission commencent ce jour-là notamment. Alors, des questions que je vais prendre au fur et à mesure. Dans un premier temps, on a posé des questions concernant le portrait et l'autoportrait de Camus. Donc Camus, pour Meyer, Camus est avant tout une présence. Donc la première chose, et le sourire derrière moi le dit encore mieux que moi, toutes ces photos qui nous entourent, tous les témoignages qu'il y a dans cette exposition, tous les objets, tous les textes, tous les manuscrits nous disent que Camus est là et qu'il est présent. Et donc Meyer dit qu'il y a une présence, une voix, des silences, un style, des gestes qui font que effectivement c'est un homme qui était là et qu'il y a eu une rencontre. Le deuxième point évidemment, c'est qu'il y a un statut. Et Meyer dit qu'il n'y a pas eu de statue avec un E, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient tous à rencontrer un prix Nobel, une statue, un homme que vous avez aussi dans les vitrines, dans la vitrine jeu, dans la vitrine métier. Il y a aussi une comédie qui n'est pas forcément à prendre au sens péjoratif du terme. Il faut jouer un rôle social. Et Camus l'a joué, et les très belles photos du prix Nobel nous montrent quelqu'un qui rit, qui sourit, qui est parfois un peu crispé, et qui joue ce rôle qui n'est pas forcément celui qu'il avait souhaité jouer. Et tout le monde s'attend à voir cet homme-là, et on découvre quelqu'un d'autre. Et donc, ce que montre Meyer, c'est qu'on découvre autre chose, et cette autre chose n'est pas un intellectuel. C'est-à-dire qu'il définit Camus, et Camus se définit lui-même par la négative, ce que je ne suis pas, pour définir ce que je suis. Donc Camus dit « je ne suis pas vraiment un intellectuel », il dit « je ne suis pas non plus ni un philosophe ni un penseur, je suis un écrivain français ». Donc le terme n'apparaît pas, artiste, cette fois-là. Peut-être parce que Camus est devant un parterre d'étudiants étrangers et que donc il faut rappeler cette patrie de la langue française qui est importante puisqu'il est traduit, on le sait, le Centre Albert Camus nous le montre avec l'autre pan de l'exposition, mais c'est aussi effectivement quelqu'un qui se présente comme celui qui écrit. Alors vous allez me dire, il est quand même un intellectuel, il est quand même un philosophe et un penseur, il faut quand même malgré tout le rappeler, un intellectuel au sens où Sartre a pu le définir au sortir de la guerre, si ses œuvres ne sont pas engagées, l'homme fut engagé, il est embarqué, et embarqué, effectivement, on le retrouve dans le vocabulaire de Camus, on le retrouve dans le vocabulaire de Sartre, on le retrouve devant un grand maître de Camus, peut-être pour l'une des premières fois, nous sommes embarqués. C'est les pensées de Pascal au départ, cette idée d'un homme qui flotte dans un océan. À la différence près que pour Pascal, il y avait encore un horizon et un maître du jeu, alors que pour Camus, il n'y a plus qu'effectivement la mer sans fond et le ciel. Peut-être avec un horizon, mais qui n'est pas divin. Donc c'est quand même malgré tout un intellectuel, c'est assurément un philosophe, et pas que pour classe de terminale, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études de philosophie, qui a effectivement travaillé sur Plotin, sur Saint-Augustin, et qui manie des concepts philosophiques, l'absurde, la révolte, notamment l'histoire. Dernièrement, pour finir, c'est un penseur, au sens où, et c'est peut-être le terme qui est moins... qui est peut-être prétentieux, mais qui est probablement celui qui trahit moins la pensée de Camus, c'est-à-dire quelqu'un qui pense le monde, qui intègre finalement, qui donne une forme, les idées, à ce qui l'entoure et qui représente le monde. Donc, il est effectivement un écrivain. Alors, cet écrivain, et Agnès vous l'a très bien dit, donc je ne reprendrai pas, et c'est toute la première page de l'article, est un artisan, c'est-à-dire que pour Camus, écrire, c'est celui qui agit, celui qui est embarqué, mais c'est celui qui a une dimension matérielle. Camus, le clip de Mystique nous l'a rappelé, a appris la vie dans le travail, l'a appris sur un terrain de football, l'a appris dans le rapport concret au monde, et tout ce qui pouvait le détacher du monde lui faisait peur. Tant sur le plan de l'abstraction idéologique, c'est le totalitarisme, c'est le culte de la raison, de la technique, contre finalement ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'oubli de la nature, l'oubli du monde, mais c'est aussi quelqu'un qui est rassuré quand il se dit... je suis dramaturge, il faut que je décide la place de la chaise, il faut que je décide l'orientation de ce projecteur, parce que ça me permet de ne pas oublier les hommes, ça me permet de ne pas oublier ce qui finalement est le plus important, être ici et maintenant, être généreux dans le présent. Et donc, c'est ce qui fonde aussi l'artisanat de Camus, c'est-à-dire son amour de l'écriture. Alors Agnès, vous avez cité des textes magnifiques, je ne reviendrai pas, mais hier, rappelle que Camus dit que l'écriture est un travail laborieux, avec une peur terrible qui concerne tous les intellectuels, tous les écrivains sans doute, sauf ceux qui sont extrêmement prolifiques, qui est celle de la stérilité, la peur de ne plus écrire. C'est pas simplement la peur de la page blanche, cette peur du vide qui peut être spirituelle, qui peut aboutir à autre chose, le texte que tu montrais où il envisage de renoncer, il y a aussi cette tentation finalement quasiment asiatique du vide qui peut combler une vie d'homme mais qui n'est pas celle que Camus imaginait pour lui. Et donc il rappelle qu'il lui a fallu 3 ans pour écrire L'étranger et l'exposition nous montre notamment dans la vitrine langage toute cette difficulté, mais dans toutes les vitrines tous ces manuscrits, tous ces mots biffés, cette petite écriture, parce que peut-être que si elle était grosse, elle donnerait le sentiment que la page est trop remplie, donc il faut que ça soit petit pour que tout rentre dans la page et on fait par-dessous. C'est les carnets qui vous montrent combien une idée qui est jetée 5 ans avant va produire un texte qui est la chute, par exemple. Donc on voit effectivement ce qui est le travail, l'établi de l'écrivain, son atelier. L'exposition vous montre aussi des photos de sa maison, de son bureau, sur lequel trônent des photos d'écrivains écrivains aussi, de ceux qui ont parfois sombré dans la folie, Nietzsche, et qui suit justement le travail de Camus et qui lui donne du courage, même si lui-même a sombré. Donc des données pratiques qui s'opposent à la révélation, à l'inspiration, et en même temps le texte de Camus et le texte de Meyer et les notations que vous a lues Agnès le montrent très bien. Il y a, s'il n'y a pas de grâce d'inspirer, il y a quand même malgré tout un déclic, un truc, dit Camus, c'est un des seuls termes qui est entre guillemets dans les trois pages de cet article, et que, dont on peut imaginer que c'est une phrase prononcée ou un terme prononcé par Camus. Donc on attend quand même le déclic, c'est les deux parties de l'étranger, c'est la fin de la chute qui arrive tardivement finalement. Donc il y a un moment où on travaille pour attendre quelque chose qu'on maîtrise, mais qui relève aussi des formes de hasard, et ce hasard, cette intuition finalement du déclic, évidemment va être mise en œuvre ensuite, travaillée et retravaillée. Et donc finalement, écrire, c'est surtout attendre l'écriture, explique Camus. Alors, c'est ce qu'explique Camus quand on lui demande ce qui se passe en lui au moment de la création littéraire. Et ensuite, très rapidement, on ouvre vers ce qu'on pourrait appeler, ce que Malraux va appeler le musée imaginaire, la bibliothèque imaginaire, et que vous avez dans l'exposition, dans notamment la vitrine Amitié. C'est-à-dire, qui est le maître de Camus ? Est-ce que Camus a un maître ? Je cite la question, hein, parce que le terme maître, à mon avis, n'aurait pas forcément été accepté par Camus. Et alors il dit, j'ai beaucoup de dettes, j'ai beaucoup d'hommes et de femmes qui m'ont aidé à créer, mais si je devais, et vous en avez le répertoire de Dostoïevski, Nietzsche, etc., mais si j'avais un maître, il faudrait véritablement développer cette notion de disciple derrière, et ça supposerait que ce maître soit aussi un ami, une présence humaine, je cite, et il rappelle que c'est Jean Grenier, son professeur de philosophie, qui va jouer ce rôle-là. Et quand on sait que Jean Grenier lui a ouvert aussi la bibliothèque dans laquelle il y a Nietzsche, Dostoïevski, Pascal, etc., on comprend que le maître est au-dessus, c'est-à-dire c'est aussi celui qui place le livre dans les mains du jeune adolescent, de celui qui finalement attend des autres une forme de révélation. Donc Jean Grenier est précisé comme étant le maître finalement à penser, mais aussi celui qui va devenir l'ami, celui qui ouvre les portes de la Grèce à Camus. Progressivement, au cours de l'entretien, on va passer de l'homme à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on va s'ouvrir vers une question qui est finalement, quelles sont les œuvres que vous préférez, quelle est votre relation à l'œuvre. Et là, on retrouve la réponse que je vous avais annoncée de Camus. Camus dit « je ne suis pas mon œuvre », c'est-à-dire « je ne suis pas mes livres, je ne veux pas être réduit à mes livres, je ne suis pas que l'auteur de L'étranger, je ne suis pas que l'auteur de La peste ». Et donc Camus explique que ces livres sont des moments de sa vie, mais qu'il ne saurait s'y réduire. Avec deux conséquences, c'est qu'il ne nie pas la projection autobiographique et narcissique, elle existe. C'est-à-dire qu'on met de soi dans l'œuvre, et effectivement ensuite, ce qu'on a mis de soi doit rentrer en résonance avec l'universel, c'est-à-dire vous, le lecteur, le monde, les hommes, l'humanité, mais qu'on doit aussi le dissimuler. D'où, effectivement, le problème de l'homme, du premier homme, qui est encore au stade, peut-être, de ce passage entre le « moi » et finalement les autres, et qui finalement nous montre non pas forcément un secret de fabrique, mais ce qui est à la genèse d'une œuvre, c'est-à-dire cette imbrication de quelque chose qui est intime vers l'ouverture de l'humaine condition. Et Camus dit, moi, mes œuvres sont des moments dans lesquels j'ai enfermé des choses. Vous avez des textes de Camus qui dit, il faut finalement pratiquement 40 ans pour ne pas avoir un cœur plein d'amertume. J'ai enfermé ces amertumes, ces questions, ces interrogations dans mes œuvres qui partent précisément comme les bateaux dont on parlait tout à l'heure. Néanmoins, il y a des projections et des éléments importants. Alors Meyer parle, et c'est probablement un des points qui peut se discuter de l'article, c'est-à-dire qu'il dit que Camus a commencé dans un Camus qui serait sombre, qui serait celui de l'absurde, qui serait celui de la pensée de la mort, un Camus qui a toujours récusé le terme d'existentialisme et qui serait finalement celui du désespoir de vivre, et il s'ouvrirait vers la pensée solaire. Et Meyer dit, quand Camus meurt, il est en marche vers ce que Camus a déjà écrit, ça s'appelle La pensée de midi, mais il est en marche vers finalement un monde plus solaire, un amour du monde, etc. Alors ça peut se discuter, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement il y a des dominantes que Camus montre aussi, et qui sont aussi liées à des genres. On peut dire la même chose avec des termes radicalement différents selon qu'on choisit du théâtre Caligula, ou qu'on choisit l'essai, le mythe de Sisyphe, ou qu'on choisisse le roman ou la fiction comme l'étranger. Donc il se distingue de ses œuvres et en même temps montre une forme de continuité. Quelle est votre œuvre préférée ? Albert Camus, il dit évidemment celle à venir, ce qui est une bonne pirouette et qui est surtout finalement, à mon sens, radicalement plein d'espoir, c'est-à-dire cette idée qu'il est en train de créer et qu'il est peut-être en train de résoudre ce problème, ou en tout cas qu'il affronte celui de la stérilité, du renouvellement de son œuvre, etc. Et qui fait que Meyer, effectivement, a le sentiment que quelque chose était en train de se jouer dans la vie personnelle de Camus et qu'il était en train d'écrire quelque chose. Alors évidemment, la question fuse, quelle est cette œuvre que vous êtes en train d'écrire ? Quel est son titre ? Alors Camus donne un titre provisoire, 40 ans d'une vie d'homme, et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, il s'agit du premier homme dont il parle, et Meyer dit, voilà ce que nous avons compris. Ce que nous avons compris, c'est que Camus allait, et que montre très bien, là aussi, évidemment, le clip de Mystique, il voulait écrire la convergence d'une vie personnelle avec la vie des autres, la vie des muets, la vie des invisibles, la vie des hommes et des femmes qui ont fait l'Algérie depuis, finalement, des siècles. Donc, il y a une dimension autobiographique que voit Meyer, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a aucune mention dans l'article de l'Algérie. C'est-à-dire que pour Meyer, ce qu'il a compris de ce que disait Camus ce jour-là, c'est que Camus parlait d'histoire, c'est-à-dire de la convergence d'une histoire personnelle avec une grande histoire. Mais Meyer avait sans doute dans la tête davantage cette histoire de l'Occident, de l'Europe et éventuellement de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre froide. Mais il n'y a pas de mention de l'Algérie, alors qu'évidemment, elle est prédominante dans le premier homme. Alors, soit Camus n'en a pas parlé, et c'est assez intéressant de se demander les raisons de ce silence, soit les autres n'ont pas compris qu'il était question finalement de cet aspect-là. Ou c'est lissé, je ne sais pas. Peut-être que Camus aussi stratégiquement n'a pas souhaité faire référence à l'Algérie pour ne pas faire bifurquer tout simplement la rencontre sur des questions qui l'intéressaient moins ou qu'il n'avait pas forcément envie de traiter à ce moment-là. Peut-être que ces questions faisaient mal, j'ai mal à l'Algérie, écrit à plusieurs reprises Camus. Alors, la troisième et dernière étape de cette conférence part finalement de l'œuvre pour arriver à la pensée. Alors là aussi, c'est très intéressant. On a trois pages et en fait, Camus parle pendant une colonne de son œuvre. Et très rapidement, on ressort de l'œuvre. On est parti de l'homme, on arrive à l'œuvre et on ressort et on arrive vers ce qui serait davantage le but en vie, c'est-à-dire ce que Camus pense du monde, ce qu'il pense de la vie. Et donc, finalement, il est à la fois cet écrivain, mais cette présence. Et ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il a au fond du cœur, c'est-à-dire finalement ce qui dirige son existence. Autrement dit, effectivement, on lui demande non pas des leçons, mais un témoignage au sens propre. Et dans ces cas-là, effectivement, la première question, c'est quel est votre sens de l'existence ? Alors là, Meyer montre qu'il y a aussi quelque chose qui relève de la révélation. Tous les gens qui étaient dans le public, suggère Meyer, avaient une image de Camus qui était quelqu'un qui était marqué par l'idéologie. Je rappelle qu'on n'est que 8 ans après la polémique de l'homme révolté, donc c'est quelqu'un qui a été balayé, si vous voulez, ballotté d'un point manichéen à un autre. On est évidemment au cœur des événements d'Algérie, de la guerre d'Algérie, donc là aussi on lui force à le mettre d'un côté ou de l'autre. Et donc on s'attend finalement à quelqu'un qui prend vraiment position et qui est radical dans sa position, ou en tout cas qui est d'un côté ou de l'autre. Et ce que Meyer attend, c'est finalement le nihiliste. C'est-à-dire que ce qu'il s'attend à rencontrer, c'est finalement celui qui pense qu'il y a la mort, qu'il faut être révolté, qu'il faut être dans le hérissement permanent contre l'injustice, etc. Et en fait, il se rend compte qu'il y a des certitudes pleines et simples. Il parle d'une âme nourrie aux certitudes à la fois les plus pures et les plus riches. Autrement dit, ce qu'il découvre, c'est la deuxième partie de l'exposition. C'est-à-dire qu'à partir de la guerre, il y a le royaume, il y a l'amour, il y a la pensée de midi. C'est-à-dire que la pensée de Camus, elle est solaire, effectivement, et elle s'appuie sur des mots. Les seuls éléments qu'on a, entre guillemets, c'est tendresse, amour, conscience, bain de mer. Donc finalement, ce qui revient dans la mémoire de Meyer, c'est des mots et non des verbes, pas des actions, mais finalement des présences, des choses qui tiennent sur le sol et qui unissent les hommes. Et donc le but en vie, ça serait non pas d'aller prendre un bain ou de saper un bain, mais pourquoi pas dans la baie d'Alger ou à Tipaza, mais cette idée finalement qu'il y a un amour du monde et que la pensée de midi n'est pas un non-choix, qu'elle n'est pas un juste milieu. Il ne s'agit pas de dire que Camus ne prend pas position, mais qu'il prend position et que toute sa révolte s'accote, comme vous l'a montré très bien Agnès, sur finalement une volonté de permettre aux hommes de sortir finalement de l'injustice et de l'histoire. D'où la très intéressante analyse, Meyer et philosophe, du rapport de Camus à l'histoire. Ça passe par une question qui est, on dit que vous êtes humaniste, qu'entendez-vous par ce mot? Et ça, c'est une question intéressante parce qu'on la trouve assez peu, finalement, dans les interviews de Camus, ce terme humaniste. Alors, il faut rappeler que ce terme est à la fois un terme qui est extrêmement connoté de façon positive depuis la Renaissance. Être humaniste, c'est évidemment mettre l'homme au centre des préoccupations. C'est une question qui va se reposer de façon tragique au moment de la Seconde Guerre mondiale et singulièrement de façon plus large au XXe siècle, parce que le XXe siècle va devenir athée. Comment être un homme quand il n'y a plus d'amarre ou de référent pour des gens qui ne croient pas en Dieu? Donc il faut que l'homme soit seul. Et quand cet homme est seul et qu'il sort des camps de concentration, ça donne, si c'est un homme, de Primo Levi. Et donc, qu'est-ce qu'il reste de l'homme quand l'homme est capable de se détruire et de détruire l'humanité? Et donc, le mot humaniste est important et en même temps, il commence à être galvaudé à l'époque où, finalement, on pose la question à Camus. C'est-à-dire qu'être humaniste, c'est prendre deux risques, ne mettre l'homme qu'au centre des préoccupations et de le mettre au centre de la nature, au point d'éliminer la nature, et donc là, pousser le culte de l'homme jusque dans son progrès, sa rationalisation, changer l'homme, c'est les régimes totalitaires. Et on le retrouve dans la chute de Camus, avec ce personnage de Clamence qui est complètement narcissique, qui pense qu'à lui. C'est aussi ça, l'humanisme galvaudé, hélas. Et en même temps, il y a cette idée aussi qu'on a reproché à Camus, qu'on reproche à Saint-Exupéry, qu'on reproche à Malraux. Tous les trois ont défini différemment ce que c'est qu'un homme. Être un homme, c'est faire ce qu'aucun animal n'aurait fait, Saint-Exupéry. Être un homme, c'est refuser la part de l'animal en soi et refuser le destin, Malraux, dans Les Voies du silence, et évidemment toute l'œuvre de Camus. Et on est en train de reprocher à ces écrivains d'être des Saint-Bernard. C'est-à-dire, on leur reproche leur humanisme pseudo-chrétien, leur laïcité bon enfant, etc. Et donc Camus, lui, défend une forme d'humanisme. Et qu'est-ce que c'est que qu'être un homme pour Camus? C'est, un, ne pas croire en Dieu. C'est aussi une des questions qu'on pose à Camus. Mais vous ne croyez pas en Dieu? Est-ce que vous avez une religion? Il dit, non, moi, je ne crois pas en Dieu. Je n'ai pas de haine pour le Dieu des chrétiens. Je ne suis pas militant anticlérical. Un mot qui n'est pas prononcé et qui, à mon avis, quand même, relève de tout ce qui est aperçu dans le texte, c'est la notion de Christ. C'est-à-dire Camus ne croit pas en Dieu, mais il croit en une forme d'incarnation du divin. Et de ce point de vue-là, il ne croit pas en Christ, mais il est fasciné par le personnage du Christ. L'exposition vous le montre très bien dans la dernière vitrine, notamment Royaume. Et l'idée, effectivement, c'est que puisque l'homme est athée, il ne peut pas non plus se réduire à l'histoire. Il est dans l'histoire et il faut se battre, se révolter pour que les hommes aient leur place au sein du monde, mais qu'il faut qu'ils aient aussi quelque chose qui échappe à ce monde, qui s'appelle la nature, le bonheur, la tendresse. D'où cette expression qui est aussi entre guillemets, mais qu'on ne retrouve pas systématiquement dans l'œuvre de Camus, donc reste à savoir si elle est vraiment camusienne, pour l'honneur de l'esprit. Camus parle d'honneur de l'esprit, et l'honneur de l'esprit, c'est quoi? C'est cette faculté que les hommes, cette obligation, cette nécessité que les hommes ont de lutter contre ce qui les écrase, et en même temps, de lutter non pas pour faire un monde meilleur, mais pour préserver quelque chose qui échapperait à cet écrasement du destin. Et là apparaît un mot qui apparaît peu chez Camus, sauf dans le théâtre, et qui est le mot « mystère ». Meyer dit « Camus n'a pas de religion, mais il a probablement une fascination et une foi pour ce qui est le mystère humain. » Et qu'est-ce que c'est que le mystère? C'est cette faculté chez les hommes simples ou chez les artistes ou chez les grands hommes ou chez les muets et les anonymes d'être capable d'équilibrer par le don de soi, par le sacrifice de soi, le mystère infini du mal. Il y a du mal, il y a de l'écrasement, il y a du destin et en face, il y a quelque chose qui est l'honneur. Le fait d'être droit, d'être à la hauteur, de tracer des limites et de proposer une équivalence mystérieuse de la grandeur face à ce qui, finalement, est le plus avilissant. Et la phrase que Agnès citait de Camus et qui dit « Il y a des choses méprisable dans l'homme. Mais notre objectif est finalement de louer ce qu'il y a de plus grand et de trouver ce qu'il y a de plus grand en eux. Entre en résonance avec un autre écrivain qui est Malraux, la préface du Temps du mépris, ce texte que Camus avait adapté au théâtre. Il est bon que les hommes, que l'artiste et que l'art, la fonction de l'art, soit de montrer aux hommes la grandeur qu'ils ignorent en eux. Et cette grandeur, c'est pas la grandeur de la noblesse, de l'aristocratie. Tout le monde peut être noble et aristocrate. Le premier homme nous le montre. Il y a une grandeur des pauvres, c'est-à-dire cette idée finalement de se tenir droit et effectivement d'être le dépositaire de l'esprit. Meyer finit en disant que Camus avançait, qu'il était en marche et qu'il avançait vers peut-être sinon une religion, du moins des retrouvailles. Et en cela, il a raison et tort. Ces retrouvailles, c'est la Grèce, selon Meyer. C'est-à-dire, il dit, voilà, s'il y a une foi ou quelque chose d'ordre spirituel, un aveu spirituel de la part de Camus dans cette rencontre, c'était finalement le cheminement de Camus vers le paganisme, vers finalement la pensée grecque. Cette pensée grecque qui, peut-être dans un des seuls moments de l'Europe, a réussi à unir l'humanisme, l'homme et la nature qui l'entoure. Et je dirais que Meyer a évidemment raison. Reste à savoir si Camus était en marche ou si il continuait de marcher. On rappellera que évidemment les premières amours de Camus sont grecques. On rappellera Nos, qui n'est pas un texte obscur. Et effectivement, il y a ce retour aux origines, d'autant plus nécessaire que pour Camus, l'Europe est renégate, c'est-à-dire qu'elle a oublié l'héritage grec. Autrement dit, je dirais que plus que le texte à venir de Camus que Meyer regrette, et c'est normal vu la situation tragique du contexte, il faudrait peut-être finalement se retourner vers la pensée de Midi et l'homme révolté. Je voudrais juste vous citer une phrase qui éclaire somme toute ce que j'ai essayé péniblement de vous dire. Au midi de la pensée, le révolté refuse ainsi la divinité pour partager les luttes et le destin commun. Refuser la divinité, évidemment, l'athéisme. Nous choisirons Ithaque, la terre fidèle, la pensée audacieuse et frugale, l'action lucide, la générosité de l'homme qui sait. Dans la lumière, le monde reste notre premier et notre dernier amour. Nos frères respirent sous le même ciel que nous. La justice est vivante. Alors naît la joie étrange qui aide à vivre et à mourir et que nous refuserons désormais de renvoyer à plus tard. Sur la terre douloureuse, elle est livrée inlassable, la mer nourriture, le vent dur venu des mers, l'ancienne et la nouvelle aurore. Là réside, à mon sens, l'héritage de Camus et la voie ouverte pour son œuvre vivante, un legs qui n'est précédé, hélas, d'aucun testament, mais qui nous laisse infiniment libres, libres de toute interprétation, dont l'exposition « Citoyens du monde » sous voulait un vibrant hommage. Merci.
C'est toi à côté.
Des cartons. Alors pour cette troisième partie, quelque chose, c'est que... Pardon, il ne marche pas ? À plus près. Pour cette troisième partie, je voudrais juste dire quelque chose. C'est que les trois personnes qui sont intervenues ce matin, ce sont trois personnes que j'ai connues, ce sont des rencontres en fait. Et je voulais l'évoquer aujourd'hui parce que je trouve qu'elles ont rendu un très bel hommage à Camus. Agnès, je l'ai rencontrée en fait lors d'un colloque en Algérie. Sophie, je l'ai rencontrée en allant écouter une conférence à Sciences Politiques sur la chute que j'ai trouvée extraordinaire. Et Mystique est venue un jour au Centre Camus, m'a apporté son morceau de musique et m'a dit « Voilà, j'ai fait ça et j'aimerais beaucoup que vous l'écoutiez et que vous le transmettiez à Catherine Camus, ce que j'ai fait, et je lui ai redonné la parole aujourd'hui. » Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et maintenant, je vous laisse leur poser des questions.
votre clip.
C'est super. Ah, c'est une super. En plus, c'est vraiment une super interprétation, en plus d'être un beau morceau.
Il faut bien que quelqu'un se lance, mais moi c'est une question qui est très peut-être trop d'actualité, qui est peut-être battue et rebattue, j'aurais envie de dire, mais en lisant ces derniers temps ce qu'a pu écrire et dire Nelson Mandela, j'avais dit mais Camus, Nelson Mandela, il a lu Camus quand, comment, etc. On a vraiment cette impression-là. Donc est-ce que vous avez ce même sentiment, en tout cas en vous écoutant mesdames et madame notamment, et même en écoutant la chanson de Mystique, et en plus tournée en Algérie, je dis ben voilà, Camus, Mandela, j'allais dire même combat, c'est peut-être pas ça, mais c'est quelque chose de cet ordre-là.
Alors bon, je peux me lancer. Je ne sais pas si Mandela a lu Camus. Je sais seulement que Mandela a dit à André Brink, qui est un très grand écrivain sud-africain et un grand admirateur de Camus, il a dit « La littérature m'a sauvé ». Et je pense que pendant les années de captivité de Mandela, la littérature a été quelque chose de capital. Je crois que cet homme avait une force extraordinaire en lui, mais je crois que la littérature l'a aidé à affermir cela. Et je pense que c'est là qu'on rejoint des choses de Camus. La littérature, ça aide à vivre. Et des gens comme, des écrivains comme Camus, ça aide à vivre. Mandela n'était pas écrivain, mais le jour où j'ai entendu Brink dire cela, j'étais très 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 heureuse parce que j'avais envie que Mandela aime la littérature. Et alors ça, il l'aimait vraiment. Et je pense effectivement qu'il y a des intuitions communes, et puis cette force extraordinaire. Et puis on ne sait pas ce que Camus aurait fait s'il avait vécu plus longtemps. Sûrement pas devenir président de la République.
Bonjour tout le monde. Moi je pense que ce qui peut les rapprocher, ça sera, sans jeu de mots, ben, solidaire. Je pense que dans le cas de Mandela, c'est encore plus vrai. Et surtout, ce que Camus m'apporte, ce que Camus m'apprend, c'est d'être concerné en fait. Et je pense qu'on peut retrouver ça aussi chez Mandela. Et je pense que à titre personnel, que le pire des maux chez l'homme, ben, c'est l'indifférence.
Oui, bonjour, messieurs, dames. Agnès, je voulais vous dire, vous étiez dans une conférence à Alger. Est-ce que c'était sur Albert Camus ou pour un autre sujet?
Alors, je suis allé beaucoup, beaucoup en Algérie. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'y suis allé pour un merveilleux colloque en 2006, je crois, qui s'est passé d'abord 3 jours à Tipaza et ensuite à Alger, qui était sur Camus. Le premier colloque officiel sur Camus, mais depuis, enfin, et même avant et depuis, j'y suis allé pour former des professeurs de français, et très souvent j'ai été interrogé sur Camus parce qu'ils savaient que je m'occupais de Camus, et que les étudiants là-bas l'ont lu, les étudiants qui font du français, mais avec la grille d'interprétation que l'on imagine, et qu'ils ont très très envie de le connaître autrement. Voilà. Camus a, en Algérie en ce moment, c'est un objet de dissension, mais les gens se passionnent pour Camus et ont envie de le connaître mieux. Donc on continue tous les liens avec l'Algérie, contre vents et marées, et ça se passe très très bien si on contourne les institutions officielles. Donc tout va bien.
Bonjour mesdames, bonjour Mystique et bravo Mystique, j'avais entendu votre clip formidable ici même à la Cité du Livre, donc je vous redis merci et bravo.
Merci.
Mesdames Spiegel et Doudet, je suis heureuse d'abord de vous dire combien j'ai été touchée par vos deux manifestations avec cette double, comme dirait Camus, mémoire. Je suis la fille de l'agent immobilier qui a fait acheter Albert Camus sa maison de Lourmarin. Et j'ai eu l'immense joie de le voir à plusieurs reprises, de déjeuner chez mes parents avec lui, et aussi au Thor, le très beau village. Il a écrit sur l'église du Thor un texte magnifique que je vous lirai après. Mais d'abord, je l'ai vu 3 jours avant son décès, à Lourmarin, au bureau de tabac, alors que j'allais acheter une carte postale. Il me dit, je ne pourrai pas rendre visite à votre père. Excusez-moi, je suis très enroué, mais je dois revenir courant janvier. Et je ne manquerai pas donc de le prévenir. Et puis il m'a dit, je vais rentrer sur Paris en train avec mes enfants. Et la tragédie, 3 jours après, c'était l'accident. Et donc nous avons été terriblement atterrés par cette terrible nouvelle. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au sujet de, d'abord, Retour à Tipaza, et qui a bercé toute ma jeunesse et qui m'a ébloui et qui m'a longtemps suivi et qui me suit toujours. Et c'est un de mes livres de chevet, et je comprends, et merci de l'avoir dit, parce que c'est un des plus beaux textes pour moi, qui était très jeune, j'avais 17 ans à l'époque, et je n'ai jamais oublié Camus, jamais. Et d'autant plus que j'avais pu acheter le premier 25 cm avec la voix de Camus et dans Retour à Tipaza. Et j'ai fait quelques enregistrements, j'en avais parlé à Catherine lorsque je l'ai revue, heureusement à Aix, j'habite Aix-en-Provence depuis les années 61, donc j'ai fait les Beaux-Arts à Aix-en-Provence, et j'ai là eu aussi le bonheur de rencontrer André Masson, le peintre qui a écrit à Albert Camus combien son ouvrage « L'homme révolté » l'avait touché. Et double bonheur, et pour moi très jeune, d'avoir un artiste comme Albert Camus, puisque c'est vraiment un artiste dans toute la splendeur du mot, et ensuite de connaître André Masson, et André Masson qui, lors de soirées après le festival, aux deux garçons, me raconter comment il avait été blessé pendant la Première Guerre mondiale. Il en avait gardé une terrible blessure, à la fois physique et morale, à tel point qu'il avait été interné. Après de longs mois, le médecin lui avait dit « Ne vivez plus jamais dans les villes, mais aller habiter la campagne. » Et c'est ce qu'il a essayé de faire une partie de sa vie. Donc, ce témoignage d'André Masson sur les horreurs de la guerre, il a écrit, il a dessiné, il a peint des massacres affreux, donc de ce qu'il avait pu vivre, ressentir, et qui était toujours comme une écharde dans le pied, pour moi aussi, m'a aidé à comprendre cette double mémoire que Camus cite dans Retour à Tipaza, il ne faut pas oublier aussi les humiliés. Et puis ensuite, donc je m'adresse maintenant peut-être un peu plus à Madame Doudet, cette confrontation d'Albert Camus entre ciel et terre. Il y a un texte magnifique qui est paru après le décès de Camus dans La postérité du soleil sur l'église du Thor. Et je vais donc vous relire ce texte. Et à ce propos, ma famille étant originaire de la région du Thor, ma mère, il y a une vingtaine d'années, avait fait un enregistrement sur l'interview du peintre Balthus. Le peintre Balthus, célébrissime, a fait la première préface à Camus a fait la première préface de Balthus chez Pierre Matisse à New York, qui exposait donc les œuvres de Balthus. Et le journaliste demande à Balthus, êtes-vous croyant ? Balthus répond, oui, je suis croyant parce que cela m'aide à supporter l'insupportable. Et Camus n'était pas, il visait beaucoup plus haut, il n'était peut-être pas très loin de penser, donc à ces sphères, au-delà de l'obscurité dont vous avez parlé et de ces forces obscures. C'est vrai qu'il témoignait aussi d'une humanité et d'une joie de vivre et d'une espérance extraordinaire. Je dois dire que j'ai été éblouie par l'homme et l'écrivain. Maintenant, je vais vous lire cet extrait qui est dans la postérité du soleil. Le taureau enfonce ses quatre pattes dans le sable de l'arène. L'église du tor ne bouge plus. Force de pierre. Mais elle se mire dans la sorgue claire, la force s'épure et devient intelligence. Elle encorne le ciel en même temps qu'elle s'enfonce dans un lit de cailloux vers le ventre de la terre. Sur le pont du Thor, j'ai senti parfois le goût vert et fugitif d'un bonheur immérité, ciel et terre étant alors réconciliés.
Merci beaucoup pour cette très belle lecture.
Encore un peu. C'est une question peut-être un peu bête à Mystique, mais comment avez-vous rencontré Camus, l'œuvre de Camus ?
Elle n'est pas bête, la question, déjà. Je rencontre Camus au moment où je travaille en tant que comédien pour une compagnie de théâtre qui s'appelle Alzar, qui est dirigée par Jeanne Poitevin, qui est de la région. Et je suis et comédien et je mène des ateliers d'écriture, qui est une de mes activités principales. Et puis je suis mentionné par la compagnie de faire tout un travail de recherche sur Albert Camus. Et je découvre l'homme, je tombe amoureux de sa plume. Et surtout, cette façon... Moi, je suis originaire du Congo, j'arrive à l'âge de 10 ans en France. Et puis on cherche des références culturelles et moi ça a été le rap par une proximité un peu de peut-être le côté un peu oral qu'il y a dans le rap. Et chez Camus je veux retrouver la même chose, quelqu'un qui vient de d'un milieu très très modeste et pourtant ben qui sera l'homme qui va être. Et en ce point je trouve que c'est en tout cas pour moi un peu plus jeune, pour d'autres jeunes de France, je trouve que c'est une référence, c'est une manière de se dire que peu importe l'endroit où on vient, on peut devenir quelqu'un, on peut devenir celui qu'on veut être. Et voilà. En tout cas, j'ai vécu moi une histoire d'amour de 2 ans avec Albert Camus en faisant les recherches autour de ses œuvres.
Bon, écoutez, puisqu'il n'y a plus de questions, on va aller se restaurer autrement que par les discours. Et je vous engage donc à nous rejoindre cet après-midi, puisqu'après-midi, donc à partir de 15... Alors, nous avons une visite, mais je crois qu'elle est complète, à 14h, qui sera faite par donc Agnès du comité scientifique de l'exposition. Nous aurons ensuite, à 15h30, donc une table ronde avec des invités. Vous retrouverez là, là-dessus, tout le programme. Et la soirée se terminera donc par un morceau de musique avec les professeurs du conservatoire. Voilà, donc je vous engage à venir partager cet autre moment de la journée avec nous cet après-midi. Bon appétit tout le monde.